Chapitre 32. Le cantique de Moïse. Tableau prophétique. Et Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël les paroles de ce cantique-ci, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes. Chapitre 31, verset 30. Ce n'est pas trop de dire que la portion du volume divin qui est placée ici devant nous est d'entre les plus belles et les plus significatives. Elle comprend la suite complète des voies de Dieu envers Israël, depuis la première jusqu'à la dernière. Elle offre le récit le plus solennel de leurs péchés, de la colère divine et du jugement. Mais, Dieu soit béni, ce cantique commence et finit avec lui. Si nous avions seulement la triste histoire des voies de l'homme, nous en serions complètement accablés. Mais, dans ce magnifique cantique, comme dans toute l'Écriture, nous commençons avec Dieu et nous finissons avec lui. C'est ce qui nous rend capables de poursuivre l'histoire de l'homme avec une calme confiance, bien que tout se brise entre ses mains. Nous remarquons aussi les machinations de l'ennemi contre les desseins de Dieu. Nous voyons la ruine complète de la créature, mais nous savons que Dieu restera Dieu en dépit de tout. Il aura la haute main à la fin, et alors tout sera et devra être bien. Dieu sera tout en tous. Il n'y aura ni ennemi, ni mal dans cet univers de félicité, dont Christ sera le soleil et le centre pour l'éternité. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Et toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre et comme des ondées sur l'herbe mûre. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Attribuez la grandeur à notre Dieu. Versets 1 à 3. Quoi qu'il en soit, le nom de notre Dieu subsistera à toujours. Aucune puissance ne peut agir contre les desseins de Dieu, ni obscurcir l'éclat de sa gloire. Quel repos cela donne à nos cœurs, au milieu de ce monde si sombre et devant le succès apparent des desseins de l'ennemi. Notre refuge, notre ressource et notre consolation se trouve dans le nom de notre Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, ce nom précieux doit être toujours comme une rosée rafraîchissante et une douce pluie descendant sur nos cœurs, nourriture céleste pour notre âme, qui la soutient dans toutes les circonstances. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Il est le rocher, pas simplement un rocher. Il n'y a pas d'autre rocher que lui. Son œuvre est parfaite. Tout ce qui vient de sa main porte le cachet d'une perfection absolue. Cette vérité sera bientôt rendue manifeste à toute créature intelligente. Elle l'est déjà pour la foi, et c'est une source de consolation pour tous les vrais croyants. Car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle, il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Verset 4. Les incrédules peuvent se railler ou, dans leur prétendue sagesse, essayer de critiquer les actes de Dieu, mais, que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Romains 3, verset 4. Que l'homme prenne donc garde à ce qu'il fait, lorsqu'il met en question ce que dit ou fait le Dieu Tout-Puissant. C'est un repos pour le cœur de savoir que si l'homme et même le peuple de Dieu manquent et sont ruinés, nous avons affaire à celui qui demeure fidèle, qui ne peut se renier lui-même, dont les voies sont parfaites, et qui, lorsque l'ennemi aura fait tous ses efforts et mûri tous ses desseins de méchanceté, se glorifiera lui-même et introduira une bénédiction universelle et éternelle. Il faut, il est vrai, que le jugement s'exécute sur les voies de l'homme coupable. Dieu est forcé de prendre la verge de la discipline et de s'en servir parfois avec une sévérité terrible sur son propre peuple. Il ne peut tolérer le mal chez ceux qui portent son nom. Cela nous est montré avec solennité dans ce cantique. Les voies d'Israël y sont exposées sans ménagement. Ils se sont corrompus à son égard. Leur tâche n'est pas celle de ses fils. C'est une génération tortue et perverse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et dénué de sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a acheté? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. versets 5 et 6. Comment Dieu a fixé les limites des peuples? Cependant, la première parole de reproche, dans ce cantique, est aussitôt suivie par le témoignage rendu à la bonté, à la longanimité, à la fidélité et aux tendres compassions de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est aussi le Très-Haut, le Dieu de toute la terre. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considérez les années de génération en génération. Interroge ton père, et il te le déclarera. Tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Versets 7 et 8. Dans l'établissement original des grandes limites nationales, le Très-Haut avait directement en vue les fils d'Israël. En considérant la géographie et l'histoire au point de vue divin, nous trouvons que le pays de Canaan et la semence de Jacob sont pour Dieu le centre de tout sur la terre. Oui, cette petite bande de terre située le long de la côte orientale de la Méditerranée est le centre de la géographie divine, et les 12 tribus d'Israël sont l'objet central de l'histoire de Dieu. Les géographes et les historiens l'ignorent le plus souvent, mais il en est ainsi. Quelle importance se rattache à ce petit pays? Quels principes y ont été déployés? Quels événements y ont eu lieu? Quelles choses y ont été accomplies et que de plans et de desseins y auront encore leur accomplissement? Il n'y a aucun endroit sur toute la terre qui intéresse autant le cœur de Dieu que le pays de Canaan et la ville de Jérusalem. Toutes les nations qui ont eu une place quelconque dans les pages inspirées le doivent simplement à ce que, d'une manière ou d'une autre, elles ont été en relation avec le pays ou le peuple d'Israël. Les soins de Dieu envers Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduisit çà et là. Il prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de dieu étranger. Il l'a fait passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et il l'a mangé le produit des champs, et lui a fait sucer le miel du rocher, et l'huile du roc dur, le caillet des vaches et le lait des brebis, et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Bazan et des boucs, avec la fine graisse du froment. Et tu as bu le vin pur, le sang du raisin. Versets 9 à 14. Est-il nécessaire de souligner que ces paroles concernent Israël? L'Église, sans doute, peut en retirer de l'instruction et en profiter, mais l'appliquer à l'Église impliquerait une erreur des plus sérieuses. Ce serait rabaisser l'Église d'un niveau céleste à un niveau terrestre. L'Église n'a nullement la place que Dieu a assignée à Israël. Elle n'a absolument rien à faire avec l'établissement des nations de la terre. Selon la pensée de Dieu, elle est étrangère sur la terre. Sa part, son espérance, son héritage, tout pour elle est céleste. Sa marche, sa destinée et son caractère tout entier, ses principes et sa morale sont célestes, ou de moins devraient l'être. L'Église n'a rien à faire avec la politique de ce monde. Sa patrie est dans les cieux, d'où elle attend le Sauveur. Si elle se mêle aux affaires du monde, elle renie son Seigneur, sa vocation et ses principes. Son grand privilège est d'être liée et moralement identifiée à un Christ rejeté, crucifié, ressuscité et glorifié. En parlant de son peuple, notre Seigneur a dit « Ils ne sont pas du monde ». Comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 16. Ces paroles sont concluantes et déterminent notre position et notre chemin de la manière la plus claire. Nous avons à traverser le monde comme des pèlerins et des étrangers, en attendant la venue de notre Seigneur, l'apparition de l'étoile brillante du matin. Ce n'est donc pas à nous à prendre part aux affaires politiques. Nous sommes exhortés à obéir aux puissances établies, à prier pour tous ceux qui sont élevés en autorité, à payer le tribut et à ne rien devoir à personne. Que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. Philippiens 2, versets 15 et 16. Le comportement d'Israël. Le verset 15 nous fait entendre une note très différente de celle des versets précédents. Jusqu'ici, nous avons eu devant nous Dieu, ses actes, ses desseins, ses pensées, son intérêt plein d'amour pour son peuple d'Israël, ses voies pleines de compassion envers lui. Mais il y a le côté de l'homme. Et ici, hélas, tout est manquement et désappointement. Ainsi, nous lisons « Mais Jeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros, replet, et il a abandonné le Dieu qui l'a fait, et il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont ému à jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont provoqué à colère par des abominations. Ils ont sacrifié aux démons qui ne sont point dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Dieu nouveau, venu depuis peu, que vos pères n'ont pas révéré. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté. » Versets 15 à 18. Nous trouvons dans ces paroles un solennel avertissement. Chacun de nous est en danger de suivre le sentier moral qu'elles décrivent. Entourés de toute manière des riches compassions de Dieu, nous sommes enclins à en faire usage pour nourrir un esprit de propre satisfaction. Nous nous servons des dons pour exclure le donateur. Comme Israël, nous nous engraissons et nous regimbons. Nous oublions Dieu. Nous perdons le sentiment de sa présence et de sa parfaite suffisance, et nous nous tournons vers d'autres objets, comme Israël vers les faux dieux. Combien souvent nous oublions le rocher qui nous a engendrés, le Dieu qui nous a enfantés, le Seigneur qui nous a rachetés. Et cette ingratitude est d'autant plus coupable que nos privilèges sont bien plus élevés que ceux d'Israël. Nous avons été amenés dans une position et dans une relation que le peuple terrestre ignorait totalement. L'amour de Dieu nous a été manifesté, non seulement dans le don de son Fils unique et bien-aimé, mais encore en nous plaçant dans la même position que ce bien-aimé sur le trône de Dieu. De sorte que, comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Tout cela est merveilleux. Et pourtant, combien nous sommes portés à oublier celui qui nous a aimés et bénis ainsi. Combien souvent nous glissons loin de lui, dans nos pensées et les affections de nos cœurs. Nous oublions facilement Dieu pour nous tourner vers d'autres objets, et cela à notre grand détriment et à son déshonneur. Voulons-nous savoir ce qu'en éprouve le cœur de Dieu? Eh bien, écoutons les paroles que Moïse, dans son cantique, adresse ensuite au peuple égaré. Le jugement de Dieu. Et l'Éternel l'a vu et les a rejetés, par indignation contre ses fils et ses filles. Et il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité. Ils m'ont ému à jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont provoqué à colère par leur vanité. Et moi, je les exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les provoquerai à la colère par une nation insensée. » Car un feu s'est allumé dans ma colère, et il brûlera jusqu'au Shéol le plus profond, et dévorera la terre et son rapport, et embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux des maux, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront consumés par la famine, et rongés par des ardeurs dévorantes, et par une peste maligne. Et j'enverrai contre eux la dent des bêtes, avec le venin de ceux qui rampent dans la poussière. Au dehors, l'épée, et au dedans, la terreur, détruiront le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète et l'homme à cheveux blancs. Versets 19 à 25. Nous avons ici un exposé solennel des voies gouvernementales de Dieu. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. L'histoire d'Israël dans le passé, sa condition actuelle et ce par quoi il devra passer dans l'avenir, tout s'accorde à prouver que notre Dieu est un feu consumant. Nulle nation sur la terre n'a été appelée à passer par une discipline aussi sévère que le peuple d'Israël. L'Éternel le leur appelle par la voix du prophète. « Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. » Amos 3, verset 2. Aucune autre nation n'a jamais été appelée à jouir du privilège élevé d'une relation effective avec l'Éternel. Cette dignité était réservée à une seule nation. Mais la dignité même de cette position était la base d'une très grande responsabilité. Si les fils d'Israël étaient son peuple, ils devaient se conduire d'une manière digne d'une position aussi merveilleuse, ou bien endurer des châtiments plus terribles que jamais aucune autre nation n'en a enduré. Les hommes peuvent raisonner là-dessus et demander s'il convient au caractère d'un Dieu de bonté d'agir selon ce que nous trouvons au verset 22 à 25 de notre chapitre. Mais toutes ces objections et tous ces raisonnements seront tôt ou tard trouvés n'être qu'une folie. Il est parfaitement inutile à l'homme d'argumenter contre les actes solennels du gouvernement de Dieu ou contre la terrible sévérité de la discipline qu'il exerce envers son peuple. Il serait plus sage et plus sûr de se laisser avertir, par les faits de l'histoire d'Israël, à fuir la colère à venir et à saisir le salut révélé dans l'Évangile. Quant à nous, chrétiens, il y a un immense profit à retirer du récit des voies de Dieu envers son peuple. Nous apprenons par ces expériences combien nous avons besoin de marcher dans notre haute et sainte position, avec humilité, dans la vigilance et la prière. Plus nos privilèges sont élevés, plus nos relations nous rapprochent de Dieu, plus aussi nous sommes responsables d'être fidèles et de nous conduire de manière à être agréables à celui qui nous a donné une place si merveilleuse. La haute main de Dieu au-dessus des nations. Les versets suivants présentent un point du plus profond intérêt en rapport avec l'histoire des voies de Dieu envers Israël. Je dirai, je les disperserai, j'abolirai du milieu des hommes leur mémoire. Si je ne craignais la provocation de l'ennemi, que leurs adversaires ne s'y méprennent et qu'ils ne disent « Notre main est élevée, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. » Versets 26 et 27. Quant à ce qui les concernait, assurément, ils méritaient que leur mémoire soit abolie du milieu des hommes et que Dieu efface toute trace de ce peuple pécheur et rebelle. Mais Dieu a ses pensées, ses conseils et ses desseins à lui, à leur égard. De plus, il tient compte des pensées et des actes des nations relativement à son peuple. Dieu ne permettra pas aux nations de traiter son pauvre peuple égaré comme s'il l'avait oublié. Il se servira bien d'elles comme d'une verge pour le châtier, mais si, en se livrant à leur propre animosité, elles tentent d'aller au-delà des limites qu'il leur a assignées, il brisera la verge. Il montrera à tous que c'est lui-même qui agit envers ce peuple qu'il n'a cessé d'aimer et qu'il bénira finalement pour sa propre gloire. Cette vérité est d'un prix inexprimable. Le propos arrêté de l'Éternel est d'enseigner à toutes les nations de la terre qu'Israël a une place particulière dans son cœur et une position d'excellence sur la terre. Aucune d'elles ne pourra agir contre les conseils divins, car certainement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob confondra tout plan formé contre le peuple de son choix. Dans leur orgueil, les hommes peuvent s'imaginer que leur bras est puissant, mais ils apprendront que celui de Dieu l'est davantage. Oh, s'ils eussent été sages, ils eussent compris ceci. Ils eussent considéré leur fin. Comment un seul en eût-il poursuivi mille, et deux en eussent-ils mis en fuite 10 000, si leur rocher ne les avait pas vendus et si l'Éternel ne les avait pas livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est de la vigne de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de monstre et un poison cruel d'aspic. Versets 29 à 33. Un jour de vengeance viendra, dans lequel toutes les nations qui ont agi orgueilleusement vers Israël auront à rendre compte de leur conduite. Elles entendront sa sentence solennelle et subiront sa colère. Cela n'est-il pas caché par-devers moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied bronchera. Car le jour de leur calamité est proche, et ce qui leur est préparé se hâte, car l'Éternel jugera son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que la force s'en est allée, et qu'il n'y a plus personne, homme lié ou homme libre. Et il dira, où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent et qu'il vous secoure, qu'il soit une retraite pour vous. Voyez maintenant que c'est moi, moi le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Moi je tue, et moi je fais vivre. Moi je blesse, et moi je guéris. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Car je lève ma main aux cieux et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui me haïssent. J'énivrerai mes flèches de sang et mon épée dévorera de la chair. Je les énivrerai du sang des tués et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Versets 34 à 42. Ici nous avons la fin des terribles sentences de jugement, de colère et de vengeance contre les ennemis d'Israël. Elles sont exprimées brièvement dans le Cantique de Moïse, mais exposées largement dans tous les écrits prophétiques. À ce sujet, on lira avec intérêt et profit Ézéchiel 38 et 39, où nous avons le jugement de Gog et Magog, le grand ennemi du Nord qui s'élèvera à la fin contre le pays d'Israël et qui trouvera là une fin ignominieuse et une complète destruction. Dans Joël aussi se lisent des paroles de consolation pour l'Israël futur. « Car voici, en ces jours-là, et en ce temps-là, où je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations. » Et elles ont partagé mon pays. Chapitre 3, versets 1 et 2. Nous voyons ainsi comment la voix des prophètes s'harmonise parfaitement avec le cantique de Moïse et comment, par le moyen de tous, le Saint-Esprit démontre pleinement cette grande vérité de la restauration d'Israël, de sa suprématie et de sa gloire future. La note finale du cantique. Combien est réjouissante la note qui termine notre cantique. Les nations hostiles sont jugées de quelque manière qu'elles apparaissent sur la scène, que ce soit Gog et Magog, les Assyriens ou le roi du Nord. Tous les ennemis d'Israël sont condamnés à la perdition éternelle. Mais alors se font entendre ces belles paroles « Réjouissez-vous, nations, avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il rendra la vengeance à ses adversaires, et il pardonnera à sa terre, à son peuple. » Verset 43. Ici prend fin ce cantique admirable. Il commence avec Dieu et se termine avec lui. Il résume l'histoire passée, présente et future de son peuple terrestre, Israël. Il nous montre les nations établies sur la terre en rapport direct avec les desseins de Dieu relativement à la semence d'Abraham. Il révèle le jugement final de toutes les nations qui ont agi en s'opposant au peuple élu. Puis, quand Israël est pleinement restauré et béni, selon l'alliance faite avec les pères, les nations sauvées sont invitées à se réjouir avec le peuple de Dieu. Quelle gloire dans ce déploiement des vérités présentées dans ce chapitre 32. Comment ne pas s'écrier en les contemplant ? Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Le rocher demeurera ferme à toujours, et toute œuvre provenant de la main divine brillera dans une perfection éternelle, à la gloire de Dieu et pour la bénédiction parfaite de son peuple. Conclusion, l'obéissance. Et Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué, fils de Nun. Et Moïse acheva de prononcer toutes ces paroles à tout Israël, et il leur dit, « Appliquez votre cœur à toutes les paroles par lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui pour les commander à vos fils, afin qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas ici une parole vaine pour vous. » Mais c'est votre vie, et par cette parole vous prolongerez vos jours sur la terre, où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. Versets 44 à 47. Ainsi, du commencement à la fin du Deutéronome, nous voyons Moïse insistant auprès du peuple sur le devoir de l'obéissance entière et de cœur à la parole de Dieu. C'est là, pour nous, le secret de la vie, de la paix, de la prospérité, et des progrès spirituels. Cherchons sérieusement à suivre le sentier étroit d'une simple obéissance à tous les commandements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De cette manière, nos cœurs seront maintenus dans la paix et la joie. Et même si nous paraissons singuliers aux yeux des hommes du monde et des chrétiens professants, ne nous laissons pas détourner du sentier que nous montre la parole de Dieu. Que la parole du Christ habite en nous richement, et que la paix de Christ règne dans nos cœurs jusqu'à la fin. Moïse n'entrera pas en Canaan. La fin de ce chapitre rappelle encore les voies gouvernementales de Dieu envers Moïse. Et, en ce même jour, l'Éternel parla à Moïse, disant « Monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo, qui est dans le pays de Moab, qui est vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en possession aux fils d'Israël, et tu mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli vers ses peuples. Parce que vous avez été infidèles envers moi, au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Meriba Kadès, dans le désert de Tsin, en ce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Car tu verras devant toi le pays, mais tu n'y entreras pas dans le pays que je donne aux fils d'Israël. » Versets 48 à 52. Combien le gouvernement de Dieu est solennel. Si un serviteur aussi éminent que Moïse a été jugé pour avoir parlé imprudemment de ses lèvres, quelle sera la fin de ceux qui vivent jour après jour, année après année, dans une négligence habituelle et délibérée des commandements de Dieu et dans un mépris positif et opiniâtre de son autorité? Oh, que Dieu nous donne un esprit soumis, un cœur brisé et contrit. Voilà ce qu'il recherche et en quoi il prend plaisir. C'est avec ceux qui sont tels qu'il fait sa demeure. C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2.